Donc aujourd'hui, on reçoit Guillaume Rousseau pour terminer cette semaine. Guillaume, je rappelle que tu es professeur à l'Université de Sherbrooke et le directeur du programme en droit et politique appliquée d'État. Tu fais même une tournée en France pour présenter ton programme et signer des accords. Tu étais au ministère de la Justice en plus aujourd'hui. Bon, on enregistre le mercredi pour parler de ce programme et nouer des accords, parce que c'est quand même intéressant de pouvoir envoyer des juristes en France après de les faire revenir au Québec dans le cadre d'un apprentissage multidisciplinaire, plurinational et tout. C'est quand même assez intéressant. Donc, je te fais félicitations pour la réussite de ta tournée. Tu dois être heureux.
Merci. Oui, effectivement, avec... puis je complétais même cet après-midi avec une visite à l'INSP, donc l'ENA qui a changé de nom. Donc on regarde pour des collaborations de ce côté-là aussi.
Donc avec toi, on va discuter, et je rappelle aussi tes chroniqueurs à Cogeco dans la région de Sherbrooke. Avec toi, on va discuter de plusieurs sujets. Commençons sur le vif du sujet. Tu es en France, on est en France tous les deux. C'est la réforme des retraites qui en ce moment et se passe, avec qui elle est au Parlement depuis le début de la semaine, au Parlement, à l'Assemblée nationale française. On en a parlé la semaine dernière avec Olivier Jacques sur un aspect plus économique, mais parlons-en sur un aspect plus politique. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça accroche à ce point-là?
Donc, ça accroche parce que, évidemment, les macronistes, donc les différents partis qui supportent le président Macron, n'ont pas la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous le gouvernement minoritaire. Ici, on parle parfois de majorité relative. Donc, le gouvernement n'ayant pas la majorité, il se retrouve devant essentiellement trois grands groupes d'opposition. Donc, d'une part, la gauche, la fameuse NUPS, donc autour de la France insoumise, qui est très opposée à la réforme de la retraite, parce que bon, on défend les travailleurs. Là. En gros, comme vous le savez, la retraite, c'est de passer à 64 ans comme âge normal de retraite. Et là, la gauche veut garder la possibilité 62 ans, donc pour avoir une retraite plus tôt. Ensuite, il y a le Rassemblement national, donc l'ancien Front national de Mme Le Pen, qui est aussi opposé à la réforme. Donc, même si on le dit de droite, voire d'extrême droite, ben, il y a quand même un côté social développé par Marine Le Pen qu'on voit ici. Et il y a le groupe de droite plus traditionnel, les Républicains, qui traditionnellement est favorable à ce genre de réforme-là, réclame depuis longtemps la hausse de l'âge de retraite, mais là, ils demandent certains ajustements à la réforme, et c'est peut-être de eux que va venir, des Républicains, donc que va venir l'appui ultimement dont les macronistes ont besoin, mais donc c'est pas acquis pour l'instant et qu'il y a encore des négociations.
Dans le cadre de cette réforme, c'est une réforme que M. Macron travaille depuis assez longtemps dessus. Pour rappeler les auditeurs, en 2019, donc avant la pandémie de la COVID, une des premières réformes avait été présentée. Cette première réforme devait modifier le système de retraite par répartition tel qu'il existe en France, par un système de retraite à points. Une sorte de système de retraite un peu différent, une sorte de mix entre le système actuel français et le système plus que l'on connaît chez nous, avec les RER et les différentes caisses de retraite publiques et privées telles qu'elles existent au Québec et au Canada et même en Amérique du Nord, dans le monde anglo-saxon en fait en général. Et cette réforme a été abandonnée par la COVID. Il y avait eu d'énormes manifestations, d'énormes grèves en 2019. Et là, on a un retour de la réforme depuis l'élection de Macron. Il a même été élu, c'était dans son programme. Mais les gens s'y opposent. Et qu'est-ce que tu penses au niveau de cette opposition-là? Beaucoup de personnes, beaucoup de chroniqueurs en France parlent qu'au-delà de la réforme, c'est aussi une mobilisation populaire contre la politique du gouvernement, contre la hausse du coût de la vie, et en fait contre une déconnexion du parti au pouvoir, l'AREM, la République en marche, et son groupe Renaissance, l'Assemblée, avec le peuple en général français. Qu'est-ce que tu penses de ça quand on voit un peu, en tant qu'observateur extérieur?
Ouais, ben effectivement, je pense qu'il y a du vrai là-dedans. On sait que Monsieur Macron a été réélu, mais dans des circonstances particulières, donc guerre en Ukraine, il n'a pas beaucoup fait campagne, il a été élu, mais finalement au deuxième tour, un peu les gens ont voté davantage contre Mme Le Pen que pour Monsieur Macron. Et dès l'occasion suivante, dès la législative qui a suivi, ça a été un mauvais résultat pour les partis macronistes. Donc tout ça mis ensemble, fait qu'effectivement, on peut penser qu'il y a une grogne, qu'il y a une insatisfaction à l'égard de M. Macron. Et là, il arrive avec une réforme impopulaire. Puis certes, il en avait été question dans l'entre-deux-tours. Donc, effectivement, ça avait été un des gros enjeux, là, Mme Le Pen étant opposée à la hausse là, de l'âge de la retraite. Mais en même temps, il y a des gens qui votent contre Mme Le Pen, donc pour M. Macron, tout en étant d'accord avec elle sur la question de la retraite, parce qu'il y a d'autres considérations qui sont prioritaires, donc les gens de gauche, entre autres. Alors, ce qui fait que finalement, la majorité qu'il a pu avoir au deuxième tour ne signifie pas du tout une majorité sociale pour ses idées. Et c'est ce qu'on voit avec cette réforme-là. Donc, les taux d'opposition à la réforme, là, c'est autour de 70-80% dans les sondages d'opinion. Puis, on sent dans le débat là, que c'est pas du tout les macronistes qui sont en train de remporter le débat. Exactement. Alors, c'est vraiment pas évident.
Mais on sent, tu poses le point assez important, on sent que les macronistes, ce sont pas eux qui remportent dans le débat. Donc, tout est une question de communication. Est-ce qu'il y a une communication défaillante de la part du gouvernement pour essayer de vendre sa réforme à la population? Même des on-dit, beaucoup de personnes disent, par exemple, que la première ministre Elisabeth Borne est trop technocratique, fait trop fonctionnaire de Bruxelles qui vient imposer la réforme au peuple français. Qu'est-ce que tu penses de tous ces aspects technocratiques face à populisme politique?
Oui, effectivement, je pense que la communication du gouvernement en général, celle de Mme Borne en particulier, est pas très convaincante. Donc, puis on sent pas non plus que le président à date, en tout cas, a pas été très offensif non plus. Donc, effectivement, communication assez moyenne, alors que c'était une des forces des macronistes à l'origine. Il y a pas si longtemps, c'était une de leurs forces. On sent que c'est plutôt une faiblesse. Et de l'autre côté, ben du côté de la NUPES, au contraire, parfois, c'est assez fort. Il y a eu une question très qui a été beaucoup relayée, qui était très forte, de Mme Kéké à l'Assemblée nationale, donc une députée de la France insoumise qui était femme de chambre avant et tout, donc qui représente vraiment les classes populaires. Et elle a posé une question en disant, dans le fond, macroniste, vous savez pas ce que c'est que travailler durement, le travail manuel et tout, vous connaissez rien à ça, donc c'est pour ça que vous êtes pas sensible aux gens qui veulent prendre leur retraite plus tôt. Puis effectivement, quand on regarde sociologiquement, ben les députés macronistes, c'est plutôt des gens un peu plus favorisés, très éduqués et tout. Donc, la communication de la France insoumise est assez bonne là, par rapport à ça. Là, particulièrement, cette question de Mme Kéké était très forte. Mais ensuite, la France insoumise a d'autres problèmes. Puis Adrien Quatennens qui est de retour puis qui se fait chahuter, bon, ça, c'était moins réussi. Mais quand même, il y a certains moments où la NUPES là, et la France insoumise en particulier communiquent bien. Et donc, comparé à ça, ben les macronistes paraissent moins bien, effectivement.
Pour rappel, Adrien Quatennens, c'est une sorte de poulain de Jean-Luc Mélenchon, une des personnes assez importantes en tant que député de la France insoumise. Il avait été mis à l'écart pour avoir battu sa femme. Il y a une enquête qui est en cours, une enquête pénale qui est en cours. Et il avait été mis à l'écart, mais aussi protégé par les têtes de son parti, car assez important, contre des personnes un peu plus basses de son parti qui disaient « Non, mais c'est pas normal, nous sommes un parti progressiste. » Il bat sa femme, il l'insulte et on lui permet de revenir. Donc ça fait un peu ce genre de problème. Et de l'autre côté, le Front National, qui est un peu en gauchisant son discours, essaye de profiter de ce débat, ce qui pose la question sur l'aspect de politique fiction pour ensuite passer à d'autres sujets politiques pour terminer cette réforme. Mais quand cette réforme va passer, si elle passe, est-ce que le gouvernement, qu'elle passe ou qu'elle passe pas, il en sort, vu les débats fragilisés, est-ce que tu vois une dissolution de l'Assemblée, car il y a, outre la réforme, a des problèmes passés, mais il y a aussi des risques de blocage. Et qui dit dissolution, dit possiblement un parti populiste qui aura le pouvoir de former le prochain gouvernement, la NUP, à l'Alliance autour de la France insoumise, ou le Rassemblement national de Marine Le Pen.
Effectivement, on en parle de dissolution, c'est un peu dans l'air, mais en même temps, on sent pas que demain matin, ni la NUPES, ni le Rassemblement national seraient en mesure de remporter la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, on risquerait de se retrouver avec une Assemblée dont la composition serait semblable à celle-ci. Et s'il devait y avoir une majorité relative RN, on se demande bien avec qui pourrait gouverner. Même chose dans une moindre mesure pour une majorité relative de la NUP. Donc, c'est vraiment pas évident. Moi, j'y crois pas trop au scénario de la dissolution, du moins pas à court terme. Donc, parce que là, bon, il y a cette réforme-là qui est plus difficile, mais sinon, les autres fois, les macronistes, finalement, arrivaient un peu à faire leur réforme à coup de 49-3 au besoin, là. Donc, j'ai l'impression que ça risque de continuer comme ça. Puis, dans ce qui risque d'arriver, en fait, Possiblement qu'il y aura des compromis. Il y a déjà commencé à y en avoir. Donc, la réforme des retraites va, je pense, va avoir quelques compromis. En même temps, la mobilisation, on sent qu'elle faiblit tranquillement. Donc, la réforme pourrait passer, mais vraiment une demi-réforme, là, vraiment, parce que, bon, il y a des objectifs comptables derrière tout ça. On parlait de 18 milliards, on est à 10, on finira à 4 ou 5, là. Donc, des économies, ce sera vraiment une petite réforme. Au moins, je pense que c'est ça qui est important pour les macronistes, c'est de ne pas perdre la face et de ne pas avoir l'air de ceux qui ne réforment plus la France, comme Chirac à une autre époque qui était au pouvoir mais qui ne réformait plus. Macron veut éviter ça, mais je pense que ce sera à minima comme réforme.
Donc passons un peu sur l'actualité québécoise et canadienne. On peut commencer par l'actualité canadienne. Ce qui se passe en ce moment, c'est la modernisation, la loi sur les langues officielles, et c'est un peu le cacardome aux côtés du parti, à l'intérieur du Parti libéral, pas aux côtés, à l'intérieur du Parti libéral. Est-ce que Justin Trudeau est en train de perdre le contrôle de son caucus?
Ben, c'est difficile à dire. En tout cas, c'est assez inhabituel là, que des députés d'un même parti se critiquent aussi violemment sur les réseaux sociaux. Donc, en gros, c'est entre autres un député franco-ontarien là, qui a critiqué très durement des députés québécois, anglo et franco, qui critiquent le projet de loi sur les langues officielles. Donc, en gros, le gouvernement Trudeau, puis c'était le livre blanc de Mme Joly, ça a été repris par Mme Petitpas-Taylor. Donc, l'idée du fédéral, c'est de dire, ben là, il faut en faire plus pour le français, parce qu'on a vu les statistiques sur le déclin, y compris au Québec, où il y a là aussi un déclin du français. Et ça ne plaît pas à une partie, évidemment, des anglophones de l'ouest de l'île de Montréal. Donc, leurs députés s'activent contre une partie du projet de loi C-13. Mais au contraire, les francophones des autres provinces en veulent du C-13, de la réforme de la loi sur les langues officielles depuis longtemps. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir cette opposition entre franco-ontariens, anglo-québécois, pas seulement, mais beaucoup, alors que traditionnellement, c'est à l'inverse. Traditionnellement, la façon que la Constitution était faite, ça avait pour effet de créer une espèce d'alliance un peu artificielle entre anglo-québécois et franco-canadiens. Mais là, on voit que ça s'effrite, et ça, c'est quand même pas inintéressant.
Quelles sont les raisons pourquoi ces trois députés du Montréal Island, comme le disait le député franco-ontarien qui a fait ses gazouillis hier, quelles sont les raisons pourquoi ces députés s'opposent même à la loi de modernisation sur les langues officielles telle que présentée en ce moment aux communes à Ottawa?
Ben, essentiellement deux éléments. Donc, un petit peu en lien avec ce que je vous disais plus tôt, c'est-à-dire le projet de loi prend acte du fait que le déclin du français, c'est partout au Canada, y compris au Québec. Et donc, je souhaite faire en sorte que le fédéral au Québec ne soit plus seulement là pour faire la promotion de l'anglais sous prétexte qu'il y aurait une minorité anglophone au Québec là, qui verrait ses droits menacés ou qui serait dans une position de vulnérabilité. Donc, on n'en est plus là. Le fédéral voudrait commencer peut-être à en faire plus pour le français au Québec. Donc ça crée une espèce de d'insécurité chez une partie des anglophones. Tout ça étant radicalisé par le lobby du Quebec Community Group Network, donc un lobby de défense des droits anglophones qui est très peu modéré, qui est beaucoup plus à l'attaque sur ces questions-là, fait très peu dans la nuance. Donc, des talking points, comme on dit, de ce lobby-là qui sont repris par des députés libéraux fédéraux. Donc, il y a ça. Puis là, s'ajoute à ça le fait que dans le projet de loi, on prévoit référer à la Charte de la langue française. Donc, on dit, ben voilà, il existe des lois provinciales, loi sur les langues officielles au Nouveau-Brunswick, Charte de la langue française au Québec. Et là, la Charte de la langue française, entre-temps, depuis le dépôt du projet de loi fédéral, elle a été modifiée par la loi 96 pour y inclure notamment une disposition de dérogation, là, que j'appelle de souveraineté parlementaire, là, pour dire qu'on ne souhaite pas que la Charte de la langue française, donc la loi 101, soit invalidée par les tribunaux, donc on la protège par la disposition de dérogation. Et là, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens là, dans le lobby anglophone qui s'opposent à ça. Et là, c'est comme s'ils disent que si la loi fédérale sur les langues officielles réfère à la Charte de la langue française, qui elle-même contient une disposition de dérogation, c'est comme si on venait légitimer cette disposition-là. Et c'est là que ça devient un enjeu sensible.
Et est-ce que tu penses que ce genre d'enjeu va empêcher le passage de la loi de modernisation ou plutôt retarder son passage? Dans quelle option tu penses la plus probable?
Non, je pense que ça peut retarder, donc, mais la loi devrait être adoptée, le projet de loi devrait être adopté, devrait être envoyé au Sénat, mais la question, c'est de savoir qu'est-ce que ce jeu-là va amener comme résultat, parce que là, les libéraux sont minoritaires, mais donc, donc, sur les concrètement, sur les amendements en commission, ça se joue entre le Bloc conservateur et le NPD. Mais là, il existe comme une espèce de sous-groupe de libéraux dissidents autour de M. Osweiler, Garneau. Donc là, ça crée vraiment une drôle de configuration au comité des langues officielles. Alors, c'est ça qu'il faudra voir. Et c'est, j'ai l'impression que c'est beaucoup le Bloc, les conservateurs, le NPD qui s'y arrivent à s'entendre, par exemple, pour appliquer la loi 101 aux entreprises privées de compétences fédérales. Donc, c'est de ce côté-là que ça va jouer. Puis, drôlement, les libéraux, même s'ils sont au pouvoir, là, c'est pas dit qu'ils auront le dernier mot sur plusieurs de ces aspects-là. Mais ultimement, ensuite, Sénat, dans l'application du projet de loi, ils vont reprendre la main.
On a beaucoup parlé dernièrement de l'affaire El Gawabi, surtout hier avec M. Stevie Fortin, qui a été notre invité. Mais on va passons et parlons-en même un peu de manière tangente, avec aussi les langues officielles, dans le cadre de l'élection primaire qui a été déclenchée dans la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques à Montréal. Cette élection, c'est surtout entre QS et le Parti libéral du Québec, étant donné à quoi ressemble la circonscription. Est-ce que cette élection est importante pour le futur de ces deux partis dans le cadre de cette mandature de 4 ans qui vient de débuter?
Ah oui, absolument. Parce que si Québec solidaire l'emporte, ce qui est quand même probable, ils ont un candidat assez connu qui se présente pour la deuxième fois. Bon, il n'était pas si loin derrière lors de la générale qui est toute récente. Donc, si Québec solidaire l'emporte, ben ça va les permettre vraiment ça pourrait leur permettre de tourner la page. Okay? Ils sont dans vraiment une mauvaise phase là, depuis la dernière campagne électorale. Donc, résultat décevant. Ensuite, se sont fait un petit peu éclipser par le PQ à la dernière session parlementaire avec l'histoire du serment. Là, on les sent vraiment très mal à l'aise et très mal habile dans toute l'affaire de la haute représentante de lutte à l'islamophobie. Donc, c'est une mauvaise phase pour Québec solidaire. Donc, si ça pouvait se terminer avec une victoire dans une partielle début mars, ce serait peut-être une occasion pour eux de tourner la page. Entre-temps, il y aura leur congrès qui risque d'être très difficile. Toute une aile de leurs militants va sans doute là, critiquer bien les choses qui sont apportées par leurs députés. Donc, c'est une phase difficile. Donc, ça leur permettrait peut-être de tourner la page. Du côté du Parti libéral, ben, une défaite viendrait au contraire faire en sorte que leur mauvaise phase continuerait, s'accentuerait. Alors qu'au contraire, une victoire libérale, ben, eux autres, ça leur donnerait ou aussi peut-être une occasion de tourner la page, quoique il va falloir qu'il y ait un nouveau chef pour tourner la page, mais en tout cas, ça donnerait l'occasion de rappeler que malgré toutes leurs difficultés, c'est quand même l'opposition officielle, ils ont beaucoup de députés, puis voilà. Donc, ça serait important pour eux autres aussi de l'emporter.
Est-ce que Joël Lightbone, qui a parlé la semaine dernière au Monde à l'envers, qu'il commençait à réfléchir à une possibilité de se présenter à la chefferie libérale, pourrait être un bon choix pour le parti? Mais au-delà du bon choix, ça c'est toujours la question, comment le parti doit pouvoir revoir son logiciel de base de pensée et se réinventer et retrouver un peu le contact avec le Québec francophone qu'il a perdu? On rappelle, 3% des francophones seulement ont voté libéral aux dernières élections provinciales de l'année dernière.
Oui, donc M. Lightbound, c'est intéressant parce que quelqu'un qui vient de l'extérieur, donc à date avec M. Fortin, M. Deradji, bon, qui ont des qualités, mais ça faisait pas une course à la chefferie très excitante. Alors là, c'est quelqu'un qui arrive de l'extérieur, qui, on le sait, a quand même son franc-parler et tout. Je trouve que ça donnerait vraiment plus de pertinence à cette course-là, donc ça la rendrait plus intéressante. Puis M. Lightbound a un profil intéressant à certains égards parce que il est connu comme étant un peu justement un franc-tireur, quelqu'un qui est en politique pour les idées, pas seulement pour la limousine, mais on connaît ses sorties critiques envers son propre gouvernement. Et le Parti libéral, il y a plusieurs choses qui nuisent à sa popularité, mais notamment tout le côté un parti qui veut le pouvoir pour le pouvoir, que le sinistre, le côté très partisan. Je pense que ça a beaucoup nuit à l'image du Parti libéral. Et là, M. Lightbound, comme chef, par hypothèse, du PLQ, arriverait avec une espèce de virginité. Ce serait vraiment un nouveau Parti libéral. Ce qu'avait tenté de projeter Mme Anglade, mais comme ancienne ministre de M. Couillard, ça marchait pas, ce qui est le même problème se représenterait avec M. Fortin. Alors que M. Lightbound, vraiment, il pourrait tourner la page. Par contre, M. Lightbound, sur le fond, vous parliez à l'instant président là, de Reconnexion qui est francophone, lui, il n'est pas là du tout. Il est vraiment dans la rhétorique très Parti libéral du Canada, très multiculturaliste et tout. Donc, je ne l'imagine pas opérer le virage nationaliste que Mme Anglade avait tenté d'opérer vainement. Donc, je pense qu'idéologiquement, il continuerait dans la même lignée, mais avec une nouvelle image. Alors, peut-être que ce serait moins pire, mais je pense pas qu'a priori, à moins vraiment qu'il arrive avec des idées là, innovantes, mais a priori, je pense pas que nécessairement quelqu'un qui amènerait complètement le Parti libéral ailleurs. Là.
Je posais la question hier à propos de Québec solidaire à Steve Fortin. Est-ce qu'on arrive un peu à la fin de la viabilité du modèle de Québec solidaire quand on voit les querelles qui pourraient se passer dépendant ou pas d'une victoire à l'élection partielle et non l'élection primaire, comme je le disais tantôt. Mais est-ce que pour toi, je pose la même question à toi aussi, est-ce que le modèle Québec solidaire commence un peu à fatiguer quand on voit les différentes querelles et les différentes polémiques qui se passent en ce moment autour du parti?
Ouais, ben en fait, c'est qu'on réalise la nature du modèle Québec solidaire. Je pense que pendant quelques années, certaines personnes s'imaginaient que c'était le nouveau PQ. Donc, un parti souverainiste de gauche qui allait, qui était destiné à prendre le pouvoir. Donc, on l'imaginait un petit peu comme ça. Là, manifestement, il n'a pas pris le pouvoir 8 ans après sa fondation comme le PQ. Donc, déjà, on commençait on se doutait, en tout cas, la naissance et la croissance avaient été plus lentes. Mais là, suite à l'élection de 2018, certains pensaient que ça y était, qu'il allait remplacer le PQ. Or, on réalise, de un, il remplace pas le PQ. De deux, il perd des votes. Donc là, on réalise que, en fait, QS, c'est pas le nouveau PQ, c'est le NPD de la scène provinciale. Donc, c'est un parti avec des militants, c'est un parti qui a des idées, c'est un parti que certains considèrent que c'est l'espèce de la conscience de gauche et tout, donc on peut y accorder un rôle important sur le plan symbolique, voire sur le plan des idées, mais c'est pas un parti destiné à prendre le pouvoir. Alors, je pense que c'est ce qu'on découvre avec Québec solidaire, c'est effectivement, donc c'est la limite du modèle, donc ça pourra peut-être être un parti qui, comme le NPD, peut appuyer un autre parti, puis faire la différence, permettre à un gouvernement minoritaire d'avoir une petite stabilité, puis de s'orienter un petit peu plus à gauche, hein, ce qui est clairement le cas du Parti libéral du Canada quand il dépend du NPD. Donc, ça ne veut pas dire que Québec solidaire n'atteindra pas ses objectifs en termes de promotion de politique publique, mais je pense qu'on voit que ce n'est pas un parti destiné à prendre le pouvoir.
Politiquement parlant, avec tout ce qui se passe en ce moment, est-ce que le boulevard est toujours... On en avait parlé un peu lors de notre dernière chronique ensemble. Est-ce que le boulevard, avec tout ce qui se passe côté langue au fédéral, l'islamophobie aussi, donc qui recrée un peu une reconnexion à l'importance d'un certain nationaliste québécois. Est-ce que le boulevard est ouvert à François Legault pour continuer, à façon de parler, ses politiques et continuer un peu son voyage assez fort dans l'opinion, ou est-ce que des problèmes pourraient quand même se présenter face à son importance dans l'opinion?
Effectivement, le boulevard est toujours là devant lui, puis il roule allègrement. Maintenant, la question, c'est de savoir qui d'autre peut se faire une place pour mettre sur le boulevard, ou que le boulevard devienne une simple rue et qu'il y ait un peu de compétition. Donc, on a vu un bon sondage pour le PQ qui était deuxième. Donc, est-ce que le PQ, justement, dans un contexte de retour du nationalisme, la CAQ joue là-dessus, mais la CAQ pourrait aussi atteindre ses limites à un moment donné au niveau du nationalisme. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, le PQ ne devient pas une solution de rechange? Peut-être, mais en même temps, le PQ, ça reste 18%, puis surtout, ça reste seulement 3 députés, puis on le verra avec prochaine partielle. Le PQ risque d'être 4e, si c'est pas 5e, là. Donc, alors que la CAQ risque d'être 3e avec un score quand même correct. Donc, à ce moment-là, le PQ, c'est comme s'il y aurait un PQ médiatique, avec on le voit encore avec le chemin Roxham ces jours-ci, mais le PQ parlementaire, puis le PQ sondagier va rester quand même un peu, puis le PQ des partiels, le cas va quand même démontrer certaines faiblesses. Alors, ça reste un gros travail de reconstruction là, pour les péquistes.
Donc, la faiblesse pour la CAQ, on en a parlé la semaine dernière avec Olivier Jacques dans l'émission Le Monde d'aujourd'hui, qui est diffusée les vendredis à 11h30. La faiblesse pour la CAQ, est-ce que ça pourrait être, par exemple, la question des transferts en santé? On voit l'offre a été présentée par le gouvernement Legault, considérée encore comme insuffisante par le gouvernement Trudeau, excusez-moi, et considérée comme encore insuffisante par le gouvernement Legault. Néanmoins, face à cette offre, le gouvernement Legault va peut-être devoir l'accepter car ils ont besoin d'argent maintenant. Donc, est-ce que l'accepter pourrait faire du mal dans l'opinion, ou est-ce que, façon de parler, ce sera ma dernière question, est-ce que l'opinion s'en fout rendu là?
Ben, l'opinion, en tout cas, est certainement sensible à la question de la santé et tout, mais là, jusqu'à quel point la stratégie du gouvernement du Québec, qui elle-même s'inscrit dans la stratégie des provinces, tu sais, à quel point ça peut tout changer, tu sais, à quel point un autre parti, est-ce que les libéraux provinciaux, le PQ ou QS, auraient fait mieux dans le cadre de ce front des commun des provinces, toujours un peu fragile, ça m'apparaît pas évident. T'sais, dès qu'on parle de grosses questions de gouvernance, bon, souvent, on n'imagine pas nécessairement personne faire mieux que la CAQ. Maintenant, est-ce que en termes de relations intergouvernementales, est-ce qu'on sent peut-être un peu de mollesse? Peut-être, mais ça m'apparaît pas évident qu'il y ait quelqu'un d'autre qui peut être plus champion au Québec là, que François Legault.
Guillaume Rousseau, chroniqueur à Cogeco, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et directeur du programme en droit et politique appliquée de l'État, en ce moment en tournée en France dans le cadre de son programme. Je te remercie, Guillaume, d'avoir été avec nous ce midi. C'est toujours un plaisir de te recevoir et tu reviens quand tu le souhaites. Merci beaucoup, Guillaume.
Merci, au plaisir.
C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour Questions d'actualité. Vous retrouverez Jean-Philippe Trottier la semaine prochaine, même jour, du lundi au vendredi, même heure, à 12h15, après les nouvelles de Radio Vatican. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine aussi pour un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui à 11h30 les vendredis. Passez une belle fin de semaine.